Europe Matin Weekend, Thierry Dagiral.
La balade du dimanche, Vanessa Zah et Marion Sauveur. Allez-vous bien ce matin?
Très bien.
Très bien.
Bon, alors on part ce matin à 70 km de Paris, en Seine-et-Marne précisément. Vanessa?
Oui, à Provins. Vous savez, c'est la cité médiévale par excellence. Mmh. Elle célèbre le 20e anniversaire de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO cette année. Alors il y a différents temps forts qui sont programmés tout au long de l'année. Une mise en lumière de la collégiale Saint-Quirias, qui à mon avis peut être vraiment époustouflante, parce que la collégiale, elle est vraiment au cœur de la ville haute, et c'est assez monumental. Il va y avoir deux parcours street art pour découvrir tous les personnages qui ont fait l'histoire de la ville. Je vous dis, Jeanne d'Arc, évidemment, bon, vous savez qui c'est, mais aussi Abélard, Jeanne de Navarre, etc. Il va y avoir des concerts avec, entre autres, Jean-François Zigel, qui adore cette ville et qui a composé de très beaux tableaux musicaux.
C'est bien, ça.
Et puis, évidemment, un feu d'artifice au-dessus de ces remparts qui font quand même 25 mètres de haut.
Ça va être
assez impressionnant. Et puis, une grande exposition sur Provins et les foires de Champagne.
C'était quoi ces foires de Champagne?
Alors en fait, c'était des foires commerciales qui étaient organisées par les comtes de Champagne, qui étaient très influents, très riches. Ça, c'était au début du Moyen-Âge, 11e, 14e siècle. Et c'est comme ça que Provins est devenu l'un des berceaux du grand commerce européen, un peu les débuts du capitalisme. Est-ce que le nord de l'Europe et le monde méditerranéen pouvaient enfin être en contact? Et puis c'est devenu aussi une grande place financière centrale pour l'Europe. Et c'est ce que la grande fête médiévale fait revivre chaque année, vous savez, depuis presque 40 ans, le temps d'un week-end. Et ça aura lieu justement 25 et 26 juin. Ça se réserve à l'avance.
Et elle ressemble à quoi cette fête alors?
En fait, vous êtes immergé au milieu des troubadours, des saltimbanques, des tournois, des joutes. Non, mais ils ont des activités en plus très sympas à faire en famille.
Avec les mômes, c'est bien.
Voilà,
ça.
La vie quotidienne,
25-26 jours.
Les arts de la guerre. Et puis, il y a trois rendez-vous, surtout incontournables, la parade costumée, le grand concert médiéval, et pour vous, Thierry Marion, un grand bal médiéval.
Oh, vous m'emmenez danser.
Oh oui, belle dame.
Belle dame. Vous les connaissez, les danses de l'époque ou pas?
Oula, non, il va falloir s'entraîner.
Allez-y.
La pavane, l'estampie et la branle. Il faut absolument donc aller les découvrir. La pavane, exactement.
Ok. Il y a un livre de photos avec vous?
Ben oui, c'est un bon guide, je trouve. C'est Sur les chemins de Provins, un joyau du patrimoine mondial aux éditions de La Martinière. Il est superbe, ce livre, pour vous mettre dans l'ambiance. Le photographe Guillaume de Laubier, il a réussi à sublimer les trésors de la ville. Toutes les vues que vous allez pouvoir découvrir, comme celle de la Tour César. Les souterrains qui sont très importants aussi dans l'histoire de Provins. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est cette atmosphère que vous avez en plein hiver. Et ça, il en parle très bien, écoutez.
Provins est riche de ses cours d'eau, ce qui a contribué à sa richesse au Moyen-Âge, puisque ça leur permettait de faire des draps, ils avaient l'eau pour les traiter. Et ces cours d'eau, et c'est justement quand il fait froid en hiver, quand ça gèle et que le soleil se lève à peine au milieu du gel, l'eau est plus chaude et elle transpire, une espèce de brume magique qui recouvre ces cours d'eau. Essayez de les saisir, de les capter juste à ce moment-là, c'est merveilleux. Vous avez des canards qui se profilent à travers la brume et vous avez la silhouette des remparts un peu fantomatique en perspective. Donc ça, c'est des moments formidables.
Ouais, c'est beau, allez-y. Une petite adresse pour terminer?
La demeure des vieux bains dans, évidemment, des vieilles pierres. Voilà, et ça, c'est une institution. Je vous mettrai tout sur le site.
Super, merci Vanessa. Marion, avec vous, on va dans le département de l'Hérault. Ce matin, vous avez envie de faire plaisir à une de nos auditrices, Marie-Rose Pou, qu'on embrasse.
Ah, Marie-Rose
Elle m'a demandé sur le groupe Facebook de la matinale si je pouvais parler dans cette balade des Zézettes de Sète. C'est l'une des emblèmes de la ville de Sète. Alors, est-ce que Thierry, Vanessa, vous connaissez ces Zézettes?
Non, pas du tout.
C'est un biscuit croquant, allongé, vanillé. À la base de vin rosé, et qui
vanillé.
Va donner du coup ce vin, le petit goût acidulé à ces gâteaux.
Je goûte.
C'est saupoudré de sucre.
Ouais.
Ça croque, hein?
Pas mal.
C'est bon.
Alors, à l'origine de ces Zézettes de Sète, il y a la famille de biscuitiers Bentata, un biscuit de famille, une recette pied noir, et surtout une bonne idée, puisqu'au départ, ce biscuit n'avait pas du tout la même forme. C'est ce que nous explique Charlène Bentata, la fille des créateurs du biscuit.
Issus de recettes vraiment familiales, c'est des biscuits qu'on a toujours reconnus dans notre enfance et c'est des recettes de nos grands-mères. C'était rond à l'époque et en fait, j'avais une petite cousine quand elle venait à la maison le week-end et que mes parents faisaient des biscuits. Un jour, mes parents ont eu l'idée de le faire droit pour que la petite, qui était donc un bébé à l'époque, puisse le tenir bien dans la main et le manger plus facilement qu'en rond. Et donc, c'est là qu'il lui est venu, du coup, la forme. Et après, du coup, en l'ayant fait comme ça, droite. Bah, du coup, c'est pour ça qu'après, est venu le nom Zézette.
Et puis, les premières Zézettes ont été vendues dans les années 80 dans les Halles de Sète. Aujourd'hui, on les trouve notamment à la maison de la Zézette à Sète et à la Belle Époque à Frontignan. C'est là où elles sont d'ailleurs toujours fabriquées de manière artisanale.
C'est vrai, ça ressemble un peu à des boudoirs.
Oui, c'est ce qu'on disait. Ouais.
Elles se dégustent comment ces Zézettes alors ?
Alors, traditionnellement, avec un café, un muscat même, ça, quand bien. Vient l'heure de l'apéritif.
Ah, bah moi, muscat, donc.
Voilà. Bonjour. Vous pouvez vous amuser à les cuisiner aussi en dessert, par exemple, en crumble, si vous le souhaitez, ou en tiramisu. J'avais envie de me lancer là-dedans.
Mais moi, j'aime bien côté croquant, justement.
Oui, alors vous pouvez garder ce côté croquant, justement, dans une petite verrine. Vous ne cuisez pas, petite verrine avec le tiramisu.
Une petite charlotte, non ?
Bah alors, du coup, ce sera moins croquant avec la charlotte.
Moi, j'aime bien le côté croquant.
Vous gardez, vous prenez donc des petits verres. Au fond, vous mettez vos zézettes que vous concassez. Vous les recouvrez de crème de châtaigne. Je vous en ai déjà parlé semaine dernière, mais c'est la saison. Par-dessus de la crème au mascarpone, jaune d'œuf avec sucre. Vous mélangez le mascarpone et délicatement les blancs d'œufs montés en neige. On termine avec des petites brisures de marron glacé. On laisse ça au frais et vous allez voir, c'est délicieux.
Et dans une petite crème au chocolat.
Ça se mange partout.
Merci Marion. On retrouve la recette bien sûr sur europa.fr. N'hésitez pas, si vous aussi, comme Marie-Rose, vous avez des suggestions à nous faire, des produits de saison, des recettes régionales.
Des
on
voyages,
adore ça. Allez sur notre
envies.
Compte Facebook. On le rappelle, c'est Europe Matin Weekend.
Thierry Dagiral.
Vous ne suivez pas.
Europe Matin Weekend. Thierry Dagiral.
Allez, bon dimanche.
Bon dimanche.